L'esprit de Paul continuait sa course, froid, précis. Il découvrait les voies du temps ouvertes devant eux sur ce monde. Sans même le secours du rêve, ses pouvoirs de prescience lui révélaient le faisceau des avenirs probables et quelque chose d'autre, une frange d'inconnu. Comme s'il plongeait dans quelque niveau d'où le temps était absent, mais où soufflaient les vents venus du futur. Brusquement, comme s'il venait de découvrir une clé nécessaire, il s'éleva d'un échelon supplémentaire dans la perception. Il sentit qu'il était plus haut, trouva une prise précaire, regarda autour de lui. C'était comme le centre d'une sphère d'où irradiaient des avenues, dans toutes les directions. Encore que cette image fût loin de l'exacte sensation. Il se souvenait d'un mouchoir de gaz flottant dans le vent. Et il percevait le futur ainsi maintenant. Comme une surface ondulante, sans consistance. Il voyait des gens. Il sentait la chaleur et le froid de probabilités innombrables. Il connaissait des noms et des lieux, éprouvait des émotions sans nombre, recevait des informations venues de sources multiples et inexplorées. Le temps était là pour sonder, goûter, examiner, mais pas pour façonner. Le tout était le spectre des possibilités du plus lointain passé au plus lointain avenir, du plus probable au plus improbable. Il voyait sa propre mort en d'innombrables versions. Il voyait de nouveaux mondes, de nouvelles civilisations, des êtres, des multitudes d'êtres qu'il ne pouvait dénombrer mais dont il percevait l'existence, des gens de la guilde. La guilde, pour nous ce pourrait être l'issue, faire accepter mon étrangeté comme une chose familière mais précieuse. L'épice à présent nécessaire nous serait assurée. Mais il était effrayé à l'idée de devoir vivre le reste de son existence avec ce même esprit tâtonnant entre les avenirs possibles qui guidaient les astronefs. Pourtant, c'était une voie ouverte. Et en affrontant cet avenir possible qui recelait les gens de la guilde, il reconnaissait sa propre étrangeté. J'ai une autre vision. Je vois un autre paysage. Tous les chemins offerts. C'était là une pensée qui rassurait et inquiétait. Tant de ces chemins disparaissaient, se perdaient hors de vue. Aussi vite qu'elle était venue, la sensation disparut, et il comprit que cet instant n'avait duré que le temps d'un battement de cœur. Pourtant, sa conscience avait été retournée, éclairée de terrifiantes façons. Il regarda autour de lui. La nuit recouvrait toujours l'abri d'Istille et les rochers protecteurs. Et sa mère pleurait toujours. En lui, il ne ressentait toujours aucun chagrin. Séparé de son esprit quelque part, il y avait toujours cet endroit creux qui poursuivait sa fonction, qui assimilait les informations, évaluait, déduisait, proposait des réponses à la façon d'un esprit mentat. Mais peu d'esprits avaient jamais accumulé autant d'informations. Et cela ne rendait pas l'endroit creux plus supportable. Paul avait l'impression que quelque chose devait se briser. C'était comme un mouvement d'horlogerie réglé pour l'explosion d'une bombe, et le tic-tac continuait sans cesse, contre son gré. Et les plus infimes variations autour de lui étaient enregistrées. La plus subtile modification du taux d'humidité, une chute de température d'une fraction de degré, l'avance d'un insecte sur le toit de l'abri, la lente montée de l'aube, dans le fragment de ciel poudré d'étoiles. Ce vide était insupportable. Et de savoir comment ce mouvement d'horlogerie avait été mis en marche ne faisait aucune différence. Il pouvait contempler tout son passé et il voyait la mise en place du mécanisme, son éducation, l'entraînement, l'affinement de ses talents, les pressions des disciplines sophistiquées, la découverte de la Bible catholique orange dans un moment critique. Et puis, l'épice. Mais aussi, il pouvait regarder devant lui, dans toutes les directions. Et c'était là le plus terrifiant. « Je suis un monstre, » pensa-t-il. « Une anomalie. » Puis, Non. Non. Ses poings frappaient le sol de la tente. Et, implacable, cette fraction de son être qui poursuivait ses fonctions enregistra sa réaction comme un intéressant phénomène émotionnel et l'intégra aux autres facteurs. Paul ! Sa mère était près de lui. Elle lui avait pris les mains. Son visage était une tache grise dans l'ombre.
Paul, qu'y a-t-il ?
Vous !
Je suis là, Paul. Tout va bien.
Que m'avez-vous fait ? Demanda-t-il. En un éclair de compréhension, elle devina les racines lointaines de la question.
Je t'ai mis au monde, dit-elle.
Son instinct, comme ses connaissances les plus subtiles, lui disait que c'était la réponse qui le calmerait. Il sentait les mains de sa mère, essayait de distinguer ses traits. Certains signes génétiques dans la forme de son visage furent ajoutés aux autres informations, assimilées. La réponse vint. « Laissez-moi, » dit-il, un ton de fer. Elle obéit.
« Paul, veux-tu me dire ce qui se passe ?
Saviez-vous ce que vous faisiez en m'éduquant ?»
Il n'y a plus trace de l'enfant dans sa voix, pensa-t-elle.
« J'espérais ce qu'espèrent tous les parents, que tu serais supérieur, différent. »«
Différent ?» Cette amertume dans sa voix.
Paul,
vous ne désiriez pas un fils. Vous désiriez un Kwisatz Haderach. Vous vouliez un mâle Bene Gesserit.
Mais, Paul, avez-vous jamais pris le conseil de mon père?
La voix de Jessica était douce dans son chagrin.
Quoi que tu sois, Paul, ton hérédité est partagée entre ton père et moi.
Mais pas mon éducation. Pas les choses qui ont éveillé ce qui dormait.
Ce qui dormait ?
C'est là, dit-il. Et il posa la main sur son front, puis sur sa poitrine.
C'est là, dans moi. Et jamais ça ne s'arrête. Jamais. Jamais. Paul.
Elle le sentait au bord de l'hystérie. Écoutez-moi, reprit-il. Vous vouliez que je parle de mes rêves à la révérende mère ? Alors écoutez à sa place, maintenant. Je viens d'avoir un rêve éveillé.
Savez-vous pourquoi ? Il faut te calmer. S'il y a l'épice, il y en a partout. Dans l'air, dans le sol, la nourriture, l'épice gériatrique, le mélange. C'est comme la drogue des diseuses de vérité. Un poison !
Elle se raidit. La voix de Paul se fit plus basse, comme il répétait. Un poison. Subtil, insidieux, sans antidote. Il ne tue pas si l'on ne cesse pas de le prendre. On ne peut quitter Arrakis sans emporter une partie d'Arrakis avec soi. La présence terrifiante de sa voix ne souffrait aucune réplique.
Vous et l'épice, reprit-il.
L'épice transforme quiconque en absorbe autant, mais, grâce à vous, cette transformation a touché ma conscience. Je peux la voir. Elle n'est pas reléguée dans mon subconscient, là où je pourrais l'ignorer.
Paul,
je la vois. Elle percevait la folie dans la voix de son fils, et elle ne savait plus quoi faire. Mais il se remit à parler, et la dureté de fer était de nouveau dans sa voix. Nous sommes pris au piège.
Nous sommes pris au piège, répéta-t-elle.
Elle acceptait cette vérité. Nul effort, Bene Gesserit, nulle astuce ou artifice ne les libérerait jamais complètement d'Arrakis. L'épice créait une accoutumance, un besoin. Son corps l'avait su bien longtemps avant que son esprit l'admette.
Nous vivrons donc le temps de nos vies sur cette planète infernale, songea-t-elle.
Si nous parvenons à échapper au Harkonnen, ce monde est prêt pour nous, et mon destin ne fait plus de doute. Je ne suis là que pour préserver une lignée qui entre dans le plan Bene Gesserit.
« Je dois vous révéler ce qu'était mon rêve éveillé !» reprit Paul, et il y avait maintenant de la fureur dans sa voix. « Pour être certain que vous accepterez mes paroles, je vous dirai d'abord que vous portez une fille, ma sœur, qui naîtra ici, sur Arrakis. »
Et Jessica posa les mains sur la paroi de la tente et appuya pour repousser la vague de peur. Elle savait que son état n'était pas encore visible. Seule son éducation, Bene Gesserit, lui avait permis de percevoir les tout premiers signaux de son corps, de savoir qu'elle portait un embryon de quelques semaines.
« Que pour servir ?»
souffla-t-elle, s'accrochant à la devise Bene Gesserit.
« Nous n'existons que pour servir. Nous trouverons refuge parmi les Fremen. C'est là que votre missionariat protectiva nous a préparé un abri. »
Notre fuite dans le désert était organisée, songea Jessica.
Mais comment peut-il connaître la missionaria protectiva?
Elle avait peine maintenant à repousser la frayeur que faisait naître en elle l'étrangeté de son fils. Paul examinait l'image sombre de sa mère. Il lisait en elle la peur, clairement, comme si elle se dessinait en traits de lumière sur l'ombre. Et il ressentit un début de compassion à son égard.
« Je ne puis encore vous dire les choses qui peuvent advenir, » dit-il. « Je ne puis même me les dire, quoique je les ai vues. Cette sensation de l'avenir, il semble que je n'ai aucun contrôle sur elle. C'est comme cela, c'est tout. L'avenir proche, un an peut-être, je peux le voir en partie. C'est une route aussi large que notre avenue centrale sur Caladan. Il y a des choses que je ne distingue pas. Des endroits pleins d'ombre, comme si la route passait derrière une colline et... »
L'image d'un mouchoir flottant au vent lui revint.
« Il y a des embranchements. »
Il demeura silencieux, comme le souvenir de cette vision l'envahissait. Nul rêve prescient, nulle expérience dans son existence préalable ne l'avait préparé à cela, à cette révélation du temps mis à nu. En se souvenant de l'expérience qu'il venait de vivre, il reconnaissait le but terrible qui était le sien. Sa vie se dilatait comme une bulle toujours plus immense, et le temps lui-même battait en retraite. Jessica découvrit le contrôle du brilleur de l'abri, et une faible clarté verte repoussa les ombres et sa frayeur. Elle regarda le visage de son fils, ses yeux tournés vers l'intérieur. Et elle sut où elle avait déjà rencontré un tel regard. Dans des images anciennes de désastres passés, des visages d'enfants affamés ou blessés. Les yeux comme des puits noirs, la bouche réduite à un trait, les joues creuses, tendues. L'expression de quelqu'un qui voit des choses terribles, songea-t-elle, qui affronte la certitude de sa mortalité. Ce n'était plus un enfant. Puis le sens sous-jacent des paroles de Paul se dessina dans son esprit, balaya tout. Paul pouvait, en regardant au-devant de leur route, discerner une issue possible.
« Il existe un moyen d'échapper aux Harkonnen, » dit-elle. « Les Harkonnen, chassez ces caricatures d'humains de votre esprit !»
Il avait les yeux fixés sur sa mère, dans la faible lumière du brilleur, sur son visage qui la trahissait.
« Tu ne devrais pas parler d'humains sans... « Ne soyez pas aussi assurés quant aux démarcations. Nous portons notre passé avec nous. Et, ma mère, il est une chose que vous ignorez et que vous devriez savoir. Nous sommes des Harkonnen. »
L'esprit de Jessica fit alors une chose terrifiante. Il se ferma totalement, comme s'il voulait se couper de toute sensation. Pourtant, la voix de Paul lui parvenait toujours, l'entraînait.
Lorsque vous serez devant un miroir, examinez votre visage. Examinez le mien maintenant. Les signes sont là, lisibles, si vous ne tentez pas de vous aveugler vous-même. Regardez mes mains, l'aspect de mon ossature. Et si rien de cela ne vous convainc, alors croyez-moi quand même sur parole. J'ai cheminé dans l'avenir. J'ai vu un document dans un lieu. J'ai tous les détails. Nous sommes des Harkonnen.
Une branche renégate de la famille, dit-elle. C'est cela, n'est-ce pas? Quelques cousins Harkonnen qui...
Vous êtes la propre fille du baron, dit Paul.
Et il la regarda porter les mains à sa bouche avant de poursuivre.
Le baron s'est adonné à bien des plaisirs dans sa jeunesse, et il s'est laissé séduire une fois. Mais c'était pour les besoins génétiques du Bene Gesserit. C'était par l'une d'entre vous.
Vous ?
C'était comme une gifle.
Mais son esprit se remit à fonctionner et elle ne pouvait nier ses paroles. Tant de suppositions passées reparaissaient maintenant et se rejoignaient. La fille que désirait le Bene Gesserit. Non pas pour mettre un terme à la vieille haine atréide Harkonnen, mais pour fixer un facteur génétique.
Lequel ?
Elle cherchait la réponse, confusément.
Comme s'il lisait en elle, Paul dit
« Ils croyaient que c'était moi, mais je ne suis pas ce qu'ils attendaient. Je suis venu avant mon temps, et ils l'ignorent. »
Les mains de Jessica étaient rivées à sa bouche.
« Grande-mère, le Kwisatz Haderach. »
Elle comprenait maintenant que peu de choses échappaient à son regard. Elle était nue devant lui, complètement ouverte. Et elle savait que c'était là la base même de sa peur.
« Vous pensez que je suis le Kwisatz Haderach, mais ôtez cette idée de votre esprit. Je suis quelque chose d'inattendu. »«
Il faut que j'avertisse l'une de nos écoles, » se dit-elle. « L'index des accouplements révélera ce qui s'est produit. »
« Il sera trop tard lorsqu'ils apprendront mon existence, » dit Paul.
Elle tenta une diversion, baissa les mains et demanda « Nous trouverons refuge parmi les Fremen ?»
Les Fremen ont une maxime qu'ils attribuent à Shai-Hulud, le vieux père éternité, et qui dit « Sois prêt à apprécier ce que tu rencontres. »
Il pensa « Oui, ma mère, parmi les Fremen.
Vous aurez les yeux bleus et une callosité sous votre joli nez, là où sera fixé le tube de votre distille.
Et vous porterez, ma sœur, Sainte Alia du couteau.
Si tu n'es pas le Kwisatz Haderach, dit Jessica.
Qui ?
Il n'est pas possible que vous le sachiez. Vous ne le croirez que lorsque vous le verrez.
Et il pensa,
je suis une graine.
Et il vit soudainement combien fertile était le terrain où il était tombé. Dans le même temps, cette sensation d'un but terrible revenait, l'envahissait, remplissait cette région vide quelque part en lui.
Le chagrin l'étouffa.
Sur le chemin qui les attendait, il avait vu deux embranchements importants. Le premier conduisait à un vieux baron empli de mal, auquel il disait « Bonjour, grand-père ».
Il détestait cet embranchement, vomissait ce à quoi il conduisait.
Le second sentier, lui, était plein de zones grisâtres et d'éminences violentes. Il portait une religion guerrière, un feu qui se répandait dans l'univers, la bannière verte et noire des Atréides flottant à la tête de légions de fanatiques abreuvés de liqueurs d'épices. Il y avait là Gurney Halleck et quelques autres hommes de son père. Mais si peu, tous arborant le signe du faucon, inspiré de la chasse du crâne de son père.
« Je ne peux pas le prendre, » murmura Paul.
« C'est ce que voudraient les vieilles sorcières de vos écoles. »«
Paul, je ne te comprends pas, »
dit Jessica.
Il demeura silencieux. Graine, il pensait avec cette conscience raciale qu'il avait d'abord ressentie comme un but terrible. Il comprenait qu'il ne pouvait plus haïr le Bene Gesserit, l'empereur ou même les Harkonnen. Tous, ils obéissaient aux besoins de leur race de renouveler son héritage dispersé, de croiser, de mêler les lignées en un immense et nouveau bouillon de gènes. Pour cela, la race ne connaissait qu'une manière, l'ancienne manière, celle qui avait été éprouvée, qui était sûre et qui écrasait tout sur son chemin. Le djihad.
Je ne peux pas choisir cela, pensa-t-il.
Mais à nouveau, au fond de son esprit, il vit la chasse du crâne de son père, la violence et la bannière noire et vert. Jessica, inquiète de son silence, demanda
« Ainsi les Fremen vont nous recueillir ?»
Il leva les yeux et, dans la pénombre verte de la tente, regarda son visage aux traits affinés. Patricien.
Oui, c'est l'un des chemins, dit-il en hochant la tête.
Oui, ils m'appelleront Mouad Dib, celui qui montre le chemin.
Oui, ils m'appelleront ainsi. »
Et il ferma les yeux et pensa, « Maintenant, mon père, je peux te pleurer. »
Et les larmes roulèrent sur ses joues.